RFI, les minuit à Berlin et à Paris, 23h en temps universel et à Conakry. Et vous êtes là, Jérôme Bastion, pour le journal. Bonsoir, Jérôme.
Je suis bien là, échauffé, comme vous l'avez dit, par le concert disco. Merci, Sylvie Berruet. Bonsoir à vous et bienvenue à vous toutes et à vous tous sur la Radio du Monde pour un nouveau point sur l'actualité de notre planète. À la une de cette édition, les attaques antisémites à Amsterdam à la sortie d'un match de football unanimement condamné. Les supporters du club israélien du Maccabi Tel Aviv ont été violemment agressés et ont désormais été rapatriés dans leur pays, tout comme l'équipe de foot. À Budapest, en Hongrie, suite et fin du sommet informel du Conseil européen, sans grande décision majeure, mais avec une note d'intention commune des 27, ils veulent lancer un chantier urgent de réforme en réaction au changement découlant de l'élection de Donald Trump. Et dans ce journal, nous irons également voir ce qui se passe sur le petit écran chinois, où l'on détaille désormais la vie du père du leader Xi Jinping. Nous verrons pourquoi. Et puis nous nous intéresserons également à l'importance d'une bonne alimentation sur la santé, bien sûr, mais aussi sur la richesse du monde, puisque la FAO estime à 10% du PIB mondial le manque à gagner dû à un défaut de nutrition. Les condamnations sont donc nombreuses en Israël et dans le monde après l'agression des supporters israéliens du club de foot Maccabi de Tel Aviv, venus affronter l'Ajax d'Amsterdam en Ligue Europa. Pour rappel, les supporters du Maccabi ont été jetés dans des canaux, ont été frappés et on les a aussi forcés à nier leur judéité et à crier « Libérez la Palestine ». Emmanuel Macron a fermement condamné les violences contre des citoyens israéliens à Amsterdam, rappelant selon lui, les heures les plus indignes de l'histoire. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, s'est indigné de cet antisémitisme répugnant. Et le nouveau chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar, s'est rendu sans plus attendre à Amsterdam. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, de son côté, préconise un plan d'action dirigé par le Mossad pour éviter la reproduction de tels incidents. Deux avions transportant les footballeurs et un premier groupe de supporters était en tout cas de retour en Israël dans la soirée. Toujours est-il que ceux qui ont assisté à ces événements sont encore sous le choc. Écoutez ce reportage de Marion Ferrer, envoyée spéciale à Amsterdam de France Inter pour RFI.
Des violences qui se sont déroulées en plein centre-ville d'Amsterdam. Les supporters israéliens ont été poursuivis dans les ruelles jusque dans leurs hôtels. C'est devant l'un d'entre eux que nous avons rencontré Julie, venue ici pour le travail. Effrayée, les supporters attaqués ont trouvé refuge dans l'établissement où elle passait la nuit. Elle est encore très choquée.
J'étais dans ma chambre d'hôtel et j'ai entendu des gens frapper à chaque porte. Ils disaient des choses pour qu'on ouvre, puis j'ai entendu comme une explosion. D'habitude, je me sens en sécurité, mais cette nuit a été exceptionnelle. La violence n'est pas la solution.
Incompréhension aussi des touristes qui déambulent aujourd'hui dans les sites touristiques, près des canaux si prisés pour les photos souvenirs et théâtre hier soir des violences. Margot vient d'arriver de Belgique.
C'est déjà assez compliqué dans leur pays et si même quand ils en sortent, on leur rappelle tout ce qui se passe là-bas, peu importe le camp dans lequel on est, je pense que c'est triste en tout cas, ça ne devrait pas arriver, mais ils n'en tirent pas des leçons de ce qui s'est passé il y a 80 ans du coup. C'est triste, encore une fois.
Des renforts de police ont été annoncés par les autorités, mais ce soir, ils ne sont pas encore visibles dans Amsterdam.
Marion Ferrer, France Inter pour RFI. Pour rappel, la police néerlandaise fait état de 5 personnes brièvement hospitalisées et de 62 arrestations. Mais un autre match de foot inquiète, France-Israël jeudi prochain. Rencontre maintenue selon le ministre français de l'Intérieur. Elle se déroulera au Stade de France jeudi prochain donc. Du côté du Proche-Orient, de nouvelles frappes israéliennes ont visé vendredi soir la banlieue sud de Beyrouth après un appel à évacuer le secteur par l'armée israélienne qui, vous le savez, pilonne depuis plus d'un mois les fiefs du Hezbollah au Liban. Le Conseil européen qui s'est refermé ce vendredi à Budapest était informel. Il n'a donc pas abouti sur des décisions contraignantes, mais sur une déclaration commune d'intention, à savoir un vaste plan de réforme inspiré par Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, pour relancer l'économie européenne sous la menace d'une guerre commerciale avec les États-Unis de Donald Trump. Les réformes économiques sont devenues encore plus urgentes avec cette élection, a averti l'ancien Premier ministre israélien venu présenter son rapport pour la relance de la croissance du vieux continent face aux États-Unis. Le bilan de ce sommet avec Carlotta Morteo.
C'est un texte à minima qui aurait perdu en substance. Il est passé de 9 à 4 pages. Viktor Orban, qui présidait ce sommet informel, a constaté l'évidence, je cite, sur la compétitivité. On est tous d'accord, personne ne veut gérer le déclin de l'Europe. Mais de là à être d'accord sur les remèdes, le chemin est encore long. Le président du Conseil, Charles Michel, qui s'apprête à finir son mandat, a toutefois estimé que la teneur des conversations aujourd'hui montrait un certain sens de l'urgence d'agir. En tout cas, parmi les principales propositions, la déclaration de Budapest des 27 mentionne le fait que l'UE prévoit un choc de simplification pour réduire de 25% la bureaucratie pour les entreprises. La Commission s'engage aussi à présenter une politique industrielle dans les prochains mois. Ursula von der Leyen a proposé de mettre sur pied un régime spécial pour les start-up innovantes qui permettrait à plus de 180 000 PME européennes d'accéder au marché unique de façon simplifiée. Et un objectif a été fixé, celui d'atteindre 3% du PIB d'investissement dans la recherche d'ici 2030. Enfin, il semble que les dirigeants avancent sur l'idée de construire une union de l'épargne et des investissements pour permettre d'utiliser les économies des Européens pour investir dans des secteurs d'avenir. Carlotta Morteo, Budapest, RFI.
En bref, les autorités judiciaires américaines ont annoncé vendredi l'inculpation d'un agent de l'Iran accusé d'avoir reçu l'ordre de Téhéran d'organiser des projets d'assassinat aux États-Unis visant notamment Donald Trump ainsi qu'une dissidente irano-américaine. Farhad Shakeri, un Afghan de 51 ans, résident en Iran après avoir purgé 14 ans de prison aux États-Unis pour braquage, est accusé d'avoir recruté des criminels de droit commun pour le compte des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique. RFI, il est minuit et 7 minutes ici à Paris, 23h07 en temps universel. Une nouvelle série télévisée sur le père du président chinois Xi Jinping. C'est la première fois qu'une fiction s'intéresse à la vie de ce révolutionnaire, compagnon de route de Mao et ancien membre du bureau politique du parti. Série qui s'inscrit dans le discours de Xi Jinping sur les valeurs familiales et une forme de glorification, Nicolas Roca.
Un fils de fermier pauvre, inlassable artisan du parti et un fervent révolutionnaire.
Je suis le chef du 5e bataillon de guérilla de l'armée rouge ouvrière et paysanne. Et mon nom est Xi Zhongxun.
Les 40 épisodes de Cipé se huaient littéralement les années du Nord-Ouest et vite soigneusement les années les plus sensibles de la vie de Xi Jinping. La série se concentre sur la conquête du pouvoir, une période très importante pour la légitimité des princes rouges, ces héritiers des premiers cadres du parti communiste dont Xi Jinping est un symbole.
Peu importe à quel point la route est difficile et dangereuse, je réussirai à transmettre le drapeau.
La série glorifie le courage de Xi Jinping, mais fait l'impasse sur la purge maoïste et ses 16 années d'incarcération et de travail dans une usine qu'il a dû subir. De retour aux affaires, il est perçu comme un défenseur d'une ligne réformatrice et libérale, éloignée de celle défendue par son fils aujourd'hui. Xi Jinping poursuit donc avec sa volonté de se montrer lui et sa famille comme l'incarnation même du Parti communiste chinois. La mère de Xi Jinping avait fait une rare apparition dans un documentaire consacré à son mari, intitulé « Dévotion totale ». Le père, la mère, le parti et Xi Jinping.
Ne pas assez ou mal manger a des conséquences économiques, dit l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Cela coûterait près de 10 000 milliards de dollars à l'économie mondiale, Justine Fontaine.
Cela représente près de 10% du PIB de la planète. Voilà pour le chiffre global. Un montant gigantesque et probablement sous-estimé, souligne l'agence dans un rapport publié ce vendredi. Dans le détail, la facture la plus lourde, on la doit à la malbouffe. Le fait de trop manger de sel, de viande rouge, de produits industriels poubelles transformées ou encore de ne pas assez manger de fruits, de légumes et de céréales complètes. Une mauvaise alimentation qui provoque de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires et coûte particulièrement cher aux pays développés. La sous-nutrition, ensuite, a elle aussi des conséquences économiques, car ne pas manger assez ne permet pas de rester en bonne santé, d'étudier, de travailler normalement. Et si on regarde à l'échelle économique de chaque pays, la malbouffe et le manque de nourriture pénalisent proportionnellement beaucoup plus les pays pauvres ou confrontés à des conflits. Ça a coûté au Soudan du Sud l'équivalent de 18% de son PIB en 2020 et à l'Ukraine ou à la République centrafricaine 15% de leur PIB.
Merci à Justine Fontaine et merci à vous d'avoir suivi ce journal RFI minuit 10 à Paris.